C'est le deuxième volet de sa session annuelle. L'Assemblée plénière des évêques de France a débuté hier et pour la première fois, des non-évêques sont invités à y participer. L'initiative est inédite. Alors est-elle le signe d'une nouvelle page que l'Église de France souhaite écrire? Une nouvelle page où les laïcs prendront davantage de place? On pose tout de suite la question à Monseigneur Jean-Marc Echesne, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Isabelle.
Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes en duplex depuis nos studios de Lourdes. Je remercie les équipes qui ont assuré la liaison. Alors Monseigneur, ce n'est pas votre première assemblée des évêques évidemment, hein, mais c'est votre première assemblée en tant que membre du conseil permanent de la Conférence des évêques de France. À ce titre, vous êtes en quelque sorte l'organisateur de cette assemblée. Vous allez nous aider à en comprendre les ressorts et peut-être nous faire découvrir les coulisses. D'abord, peut-être cette première impression. Hier, l'Assemblée a débuté et avec cette rencontre inédite entre deux mondes, celui des évêques et puis des baptisés, vous n'étiez pas trop serré sur les bancs?
Alors nous étions un peu serrés malgré tout.
Ah ben oui.
D'autant qu'on avait imaginé dans l'hémicycle, on a des tables qui permettent de poser des ordinateurs portables ou de travailler un peu. On avait imaginé de pouvoir les retirer, mais comme en milieu de journée aujourd'hui, après le départ de nos collaborateurs laïcs, là, il fallait revenir à la configuration initiale, ça aurait été compliqué de les remonter. Mm-hmm. Donc finalement, en ajoutant des chaises, en utilisant tous les espaces, je ne sais pas si on est tout à fait dans les conditions de sécurité prévues pour la salle, mais ça, on n'en parlera pas.
On n'en parlera pas. Et alors, comment ça s'est passé cette rencontre? Est-ce qu'ils n'étaient pas trop intimidés, les non-évêques? Ils étaient plus nombreux que vous tout de même, hein, c'est ça qui est amusant. Plus de 200 non-évêques, laïcs, baptisés, je ne sais pas comment on peut les appeler, pour à peu près 120 évêques. Est-ce qu'ils étaient intimidés?
Alors, de fait, ils étaient intimidés, ils étaient nombreux, puisque chaque diocèse était invité à venir avec deux invités. Alors, on essaie justement de ne pas les définir uniquement par rapport à notre identité.
Mmh,
vous savez, quand je pense à nos amis protestants qui parfois sont tentés par commodité de langage, hein, c'est pas du tout une critique, mais de se définir par rapport au catholicisme.
Ouais.
C'est vrai que les gens qui sont venus avec nous sont des baptisés,
ouais.
des gens qui sont positionnés autrement que ne sont des évêques dans l'Église, mais qui ont leur identité propre, et c'est justement l'effort qui est posé là, c'est une manière d'essayer de profiter de tous les charismes que le Seigneur donne à son Église à travers tous les ministères.
On va venir au sens de cette démarche, mais d'abord donnez-nous un peu de croquignolesque de cette rencontre. Est-ce qu'il y a eu des échanges informels entre les séances de travail?
Oui, comme toujours dans ce type de rassemblement, démarche synodale, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans les espaces informels, au moment où on prend un café, au moment où les regards se croisent et on se dit on sent bien qu'il y a des questions intérieures de certains qui se disent mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est ma place? Est-ce que je vais être bien accueilli? Est-ce que je suis bien peigné ou bien habillé? Vous savez, toutes les questions un peu secondaires mais qui inévitablement nous habitent. Puis petit à petit, on sent qu'il y a une sorte de libération qui s'opère et puis les sourires se mettent sur les visages, les échanges sont engagés. Et il y a des choses vraiment intéressantes qui se jouent là et qui se nouent aussi pour notre Église.
Eh bien, bien sûr. Alors, évidemment, on n'assiste pas à une assemblée plénière tous les jours. L'assemblée plénière, si vous deviez la définir, c'est quoi? C'est une sorte de conseil des ministres pour essayer de rapprocher de ce que tout le monde connaît?
Alors, peut-être que d'abord, c'est justement ce qu'on redécouvre justement en invitant des laïcs dans cette assemblée. C'est un lieu pour faire droit à une identité commune. Vous savez, on appelle ça une collégialité ou une fraternité qui est ancrée dans un sacrement, le sacrement de l'épiscopat. Donc c'est important, comme c'est important pour des prêtres dans un diocèse de temps en temps d'être ensemble, parce qu'ils sont ensemble unis par le même sacrement. Pour des évêques, c'est important aussi d'être ensemble parce qu'ils sont ensemble unis par le même sacrement. Mais en même temps, c'est vrai que cette assemblée oriente la vie, la pastorale de l'Église de France.
Ouais.
Donc c'est un peu un conseil des ministres. Et à un certain moment, la question qu'on s'est posée en assemblée des évêques, face à aussi les appels très forts du pape François à vivre des démarches plus synodales, a été de se dire, mais est-ce que c'est complètement cohérent d'orienter pastoralement notre Église uniquement avec des évêques? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait, dans ces lieux où se définissent un peu des orientations, où se posent des choix, une plus grande diversité de statuts, d'états de vie, de ministères?
D'où la présence de laïcs et de non-évêques, même si on a compris que vous n'aimiez pas qu'on les situait comme ça. Juste un petit mot, on va regarder ensemble un petit coup d'œil sur le programme de cette session avant de venir à cette initiative inédite dont nous parlons ce matin avec vous, Monseigneur Jean-Marc Echène, initiative inédite avec la présence de personnes de baptisées à l'Assemblée plénière. Un coup d'œil sur le programme, il est beaucoup question d'écologie, je crois, et puis demain, gros morceau, si je puis m'exprimer ainsi, puisque c'est la pédophilie dans l'Église, la lutte contre la pédophilie qui se réinvite.
Oui, parce que sur cette question-là, d'ailleurs, c'était dans le mot d'introduction de notre nouveau président, Éric de Moulin-Beaufort. Il a tout de suite fait allusion à ce chantier qui était encore en cours. On ne peut pas considérer que sur des questions aussi graves, voilà, on a géré le problème, maintenant on passe à autre chose, c'est un travail sur la durée qu'il nous faut engager, donc on va travailler avec M. Sauvé et sa commission pour faire le point de l'avancée de tous ces travaux, donc on ne baisse pas la garde par rapport à cette réalité très importante sur laquelle il faut continuer à creuser, à travailler pour que soient protégés les plus faibles et puis que le témoignage de notre Église soit plus crédible.
Avec à la clé, disais-je, la question de l'indemnisation des victimes également.
Alors oui, disons que c'est une des questions parmi les pistes de réflexion qui sont ouvertes et qui seront élaborées dans la durée. Il y a une manière de trouver des gestes symboliques qui disent une sorte de volonté de réparer, même si parfois les blessures sont très graves, aussi tellement graves que les réparations sont presque impossible à trouver de manière complètement satisfaisante, mais poser des signes, des symboles, des actes, y compris économiques, qui disent ce souci de réparer des blessures tellement profondes que l'on découvre. D'ailleurs, les témoignages des gens qui travaillent dans cette commission Sauvée sont tout à fait étonnants parce que ils étaient en quelque sorte vierges par rapport à ces questions-là. Et ils découvrent la profondeur des blessures des personnes qui ont été victimes d'agressions. Et donc ça nécessite non seulement une écoute attentive, non seulement une reconnaissance par cette écoute, mais aussi peut-être des gestes posés. Alors il y en a d'autres qui sont élaborés, auxquels on commence à réfléchir. Est-ce qu'il faut un lieu de mémoire? Est-ce qu'il faut un temps récurrent de célébration mémorielle? Est-ce qu'il faut une sorte de
la question est
signe
encore,
économique. Donc tout ça est
ouvert.
Un peu en chantier.
Tout
et ce qui est intéressant, c'est que ces pistes-là sont co-élaborées, en quelque sorte, avec des personnes qui ont été victimes et qui prennent la parole. C'est pas juste une décision des évêques qui se disent
justement,
tiens, comme ça.
Alors cette question-là nous rapproche de notre cœur de sujet de ce jour. Hein. C'est qu'on sent qu'un espèce de vent nouveau, je sais pas, souffle sur l'Assemblée plénière. Alors là, on va s'attarder sur cette nouveauté de l'année, la venue des laïcs. Monseigneur Echène, pourquoi cette démarche initiée, vous l'avez dit, par le nouveau président Éric de Moulin-Beaufort, pourquoi accueillir des laïcs dans ce lieu emblématique de l'Assemblée plénière des évêques de France?
Alors, certainement parce qu'on prend mieux la mesure aujourd'hui, aussi pour le vivre dans nos diocèses, dans les démarches de synodes qui sont mises en place dans les diocèses ou même dans les conseils épiscopaux. La plupart du temps, aujourd'hui, dans les diocèses de France, un conseil épiscopal, donc le conseil le plus proche, le conseil des ministres de l'évêque en quelque sorte,
oui.
Ce conseil-là est constitué de prêtres, de religieux, d'hommes, de femmes, de laïcs. Donc il y a cette diversité des positionnements dans l'Église et des ministères pour orienter la vie d'un diocèse et pour mettre en œuvre des orientations pastorales qui sont souvent élaborées dans des démarches synodales où chacun a la parole. Donc la question, c'est de se dire, pour l'Église de France, on pourrait imaginer aussi, alors à mettre en œuvre ensuite de manière concrète, il faut y réfléchir parce qu'on n'en a pas énormément l'habitude, mais réfléchir à une réalité aussi plus synodale pour élaborer des orientations pour notre Église.
Est-ce que c'est aussi est-ce que c'est une façon de tordre le cou au fameux cléricalisme également ?
Alors oui, d'une certaine manière, c'est face aux expressions très fortes de notre Église aujourd'hui à travers le pape François qui nous invite à sortir du cléricalisme, on se dit mais est-ce que c'est complètement cohérent d'imaginer que le destin de l'Église de France et ses orientations soient élaborées uniquement par des hommes qui sont sacramentellement dans le sacrement de l'épiscopat, et qui soient tous des hommes et qui soient souvent d'un certain âge, parce qu'en général on n'est pas appelé évêque quand on est tout jeune.
Ouais.
Donc il y a vraiment cette question-là. C'est-à-dire, il faut s'ouvrir à toutes les voies, à tout ce que le Seigneur donne à chacun des membres de son Église, à chacun des disciples missionnaires que sont les baptisés, pour ne pas se priver de ces richesses-là.
Et tout le monde a joué le jeu ?
Alors je crois pouvoir dire qu'il y a un vrai climat de sérénité, même un peu d'émerveillement, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la nouveauté. Il y a une manière de se dire, waouh, mais c'est possible, quoi.
Et alors, vous êtes venu donc accompagné de deux personnes. Comment est-ce que le choix s'est fait? Il s'est imposé à vous?
Alors, comme on était sur des thématiques, comme le fil rouge qui a été choisi, en quelque sorte, c'est la question de l'écologie et de l'écologie intégrale qui touche à tous les aspects, non seulement l'écologie concrète pour ne pas gaspiller ou ne pas utiliser trop de plastique, mais aussi l'écologie autour du respect de la vie depuis ses commencements jusqu'à la fin, l'écologie aussi en termes d'attention aux plus pauvres, aux plus fragiles, des conséquences sur les plus pauvres et les plus fragiles que peuvent avoir aussi le non-respect de l'environnement ou une consommation effrénée. Donc dans la mesure où le fil rouge était celui-là, un fil rouge assez globalisant, on s'est dit, il faut peut-être qu'on trouve dans nos diocèses des gens qui portent ces questions-là depuis quelque temps déjà, qui ont déjà avancé dans cette réflexion et dont la contribution pourra peut-être à ce titre-là être plus riche.
Alors vous l'avez dit, hein, ils sont là pour deux jours, leur participation s'achève aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que cette nouveauté, hein, ce changement un peu de règles, en annonce d'autres au sein des institutions et du fonctionnement de l'Église de France, Monseigneur Jean-Marc Eschène?
Alors sans doute, mais en même temps, ce que l'on souhaite, c'est un peu se laisser guider par l'esprit pour ne pas nous trouver dans une démarche d'idéologie. Donc tout cela, c'est un commencement en quelque sorte, c'est une sorte d'ouverture qui s'opère. Où cela va nous conduire, on ne le sait pas encore.
C'est l'aggiornamento de l'Église de France.
Voilà, on pourrait dire cela, oui, c'est une expression, une sorte de mise à jour, une sorte de, parce que finalement l'aggiornamento que voulait le pape Jean XXIII au moment où il a convoqué le Concile Vatican II, c'était une réalité d'adaptation de l'Église au monde contemporain. Et c'est vrai que peut-être aussi, et là on peut faire le lien avec les drames qui ont marqué notre Église récemment, on se dit que face à de telles réalités, peut-être que si on avait été plus à l'écoute de tous, en particulier d'hommes, de femmes, de laïcs, de pères et de mères de famille, les décisions que nous aurions prises étaient différentes. Donc c'est sans doute cela aussi qui, de manière plus urgente, nous fait dire qu'il nous faut nous laisser conduire par l'esprit pour vivre de vraies évolutions sans relativiser les ministères ordonnés. Il ne s'agit pas de dire que chacun est identique. On a besoin de cette diversité des ministères dans l'Église. On a besoin de prêtres, d'évêques, de diacres, de religieux, de religieuses, de baptisés.
Et la complémentarité est importante.
En jouant beaucoup plus sur les complémentarités.
Un immense merci, Monseigneur Jean-Marc Eschène, pour cet entretien qui est en duplex depuis Lourdes, où a lieu l'Assemblée plénière des évêques jusqu'au 10 novembre, avec pendant deux jours, vous nous l'avez dit, la présence inédite de personnes baptisées, personnes qui ne sont donc pas des évêques. Un grand merci à vous.
Merci à vous.